Les grandes espérances. Chapitre 1. Le nom de famille de mon père étant Pirippe et mon nom de baptême Philippe, ma langue enfantine ne put jamais former de ces deux mots rien de plus long et de plus explicite que Pipe. C'est ainsi que je m'appelais moi-même, Pipe, et que tout le monde m'appela Pipe. Si je donne Pirippe comme le nom de famille de mon père, c'est d'après l'autorité de l'épitaphe de son tombeau et l'arrestation de ma sœur, Mrs. Joe Gargery, qui a épousé le forgeron. N'ayant jamais vu ni mon père, ni ma mère, même en portrait, puisqu'ils vivaient bien avant les photographes, la première idée que je me formais de leur personne fut tirée, avec assez peu de raison, du reste, de leur pierre tumulaire. La forme des lettres tracées sur celle de mon père me donna l'idée bizarre que c'était un homme brun, fort, carré, ayant les cheveux noirs et frisés. De la tournure et des caractères de cette inscription, et aussi Georgina, épouse du ci-dessus, je tirai la conclusion enfantine que ma mère avait été une femme faible et maladive. Les 5 petits losanges de pierre d'environ 1,5 pied de longueur, qui étaient rangés avec soin à côté de leur tombe, et dédiés à la mémoire de 5 petits frères qui avaient quitté ce monde après y être à peine entrés, firent naître en moi une pensée que j'ai religieusement conservée depuis, c'est qu'ils étaient venus en ce monde couchés sur leur dos, les mains dans les poches de leurs pantalons, et qu'ils n'étaient jamais sortis de cet état d'immobilité. Notre pays est une contrée marécageuse, située à 20 miles de la mer, près de la rivière qui est conduite en serpentant. La première impression que j'éprouvais de l'existence des choses extérieures semble m'être venue par une mémorable après-midi, froide, tirant vers le soir. À ce moment, je devinai que ce lieu glacé, envahi par les orties, était le cimetière. Que Philippe Pirippe décédait dans cette paroisse, et Georgina, sa femme, y était enterrée. Que Alexander Bartholomew, Abraham, Tobias et Roger, fils d'Eddie, y étaient également morts et enterrés. Que ce grand désert plat au-delà du cimetière, entrecoupé de murailles, de fossés et de portes, avec des bestiaux qui y passaient çà et là, se composait de marais, que cette petite ligne de plomb plus loin était la rivière, et que cette vaste étendue, plus éloignée encore, et d'où nous venait le vent, était la mer, et ce petit amas de chair tremblante, effrayé de tout cela, et commençant à crier, était Pipe. « Tais-toi !» s'écria une voix terrible, au moment où un homme parut au milieu des tombes près du portail de l'église. « Tiens-toi tranquille, petit drôle, ou je te coupe la gorge !» C'était un homme effrayant à voir, vêtu tout en gris, avec un anneau de fer à la jambe, un homme sans chapeau, avec des souliers usés et troués, et une vieille loque autour de la tête, un homme trempé par la pluie, tout couvert de boue, estropié par les pierres, écorché par les cailloux, déchiré par les épines, piqué par les orties, égratigné par les ronces, un homme qui boitait, grelottait, grognait, dont les yeux flamboyaient et dont les dents claquaient lorsqu'il me saisit par le menton. « Oh, monsieur, ne me coupez pas la gorge !» m'écriai-je avec terreur. « Je vous en prie, monsieur, ne me faites pas de mal. »« Dis-moi ton nom, » fit l'homme, « et vivement !»« Pipe, monsieur. »« Encore une fois, » dit l'homme en me fixant, « ton nom, Pipe, Pipe, monsieur. »« Montre-nous où tu demeures, » dit l'homme, « montre-nous ta maison. » J'indiquai du doigt notre village, qu'on apercevait parmi les aunes et les peupliers, à 1 mile ou 2 de l'église. L'homme, après m'avoir examiné pendant quelques minutes, me retourna la tête en bas, les pieds en l'air et vida mes poches. Elles ne contenaient qu'un morceau de pain. Quand je revins à moi, il avait agi si brusquement, et j'avais été si effrayée, que je voyais tout sans dessus dessous, et que le clocher de l'église semblait être à mes pieds. Quand je revins à moi, dis-je, j'étais assis sur une grosse pierre, où je tremblais pendant qu'il dévorait mon pain avec avidité. Mon jeune gaillard, dit l'homme en se léchant les lèvres. « Tu as des joues bien grasses. » Je crois qu'effectivement mes joues étaient grasses, bien que je fusse resté petit et faible pour mon âge. « Du diable, si je ne les mangerais pas !» dit l'homme en faisant un signe de tête menaçant. « Je crois même que j'en ai quelque envie. » J'exprimai l'espoir qu'il n'en ferait rien, et je me cramponnai plus solidement la pierre sur laquelle il m'avait placé, autant pour m'y tenir en équilibre que pour m'empêcher de crier. « Allons !» dit l'homme. « Parle !» « Où est ta mère ?»« Là, monsieur, » répondis-je. Il fit un mouvement, puis quelques pas, et s'arrêta pour regarder par-dessus son épaule. « Là, monsieur, » repris-je timidement en montrant la tombe, Aussi, Georgina, c'est ma mère. « Oh !» dit-il en revenant. « Et c'est ton père qui est là étendu à côté de ta mère ?»« Oui, monsieur, » dis-je, « c'est lui, défunt de cette paroisse. » « Ah » murmura-t-il en réfléchissant. « Avec qui demeures-tu, en supposant qu'on te laisse demeurer quelque part, ce dont je ne suis pas certain ?»«
Avec ma sœur, monsieur, Mrs. Joe Gargery, la femme de Joe Gargery, le forgeron, monsieur. »«
Le forgeron, hein » dit-il en regardant le bas de sa jambe. Après avoir pendant un instant promené ses yeux alternativement sur moi et sur ma jambe, il me prit dans ses bras, me souleva, et, me tenant de manière à ce que ses yeux plongeassent dans les miens, de haut en bas, et les miens dans les siens, de bas en haut, il dit.
« Maintenant écoute-moi bien. C'est toi qui vas décider si tu dois vivre.
Tu sais ce que c'est qu'une lime ?»«
Oui, monsieur. » »«
Tu sais aussi ce que c'est des vivres ?»«
Oui, monsieur. »
Après chaque question, elle me secouait un peu plus fort, comme pour me donner une idée plus sensible de mon abandon et du danger que je courais. « Tu me trouveras une lime, » il me secouait, « et tu me trouveras des vivres, » il me secouait encore. « Tu m'apporteras ces deux choses, » il me secouait plus fort, « ou j'aurai ton cœur et ton foie, » et il me secouait toujours. J'étais mortellement effrayée et si étourdie que je me cramponnais à lui en disant « Si vous vouliez bien ne pas tant me secouer, monsieur, peut-être n'aurais-je pas mal au cœur, et peut-être entendrais-je mieux. » Il me donna une secousse si terrible qu'il me semble avoir dansé le coq sur son clocher. Alors il me soutint par le bas, dans une position verticale, sur le bloc de pierre, puis il continua en ces termes effrayants. « Tu m'apporteras demain matin, à la première heure, une lime et des vivres. Tu m'apporteras le tout dans la vieille batterie là-bas. Tu auras soin de ne pas dire un mot, de ne pas faire un signe qui puisse faire penser que tu m'as vu, ou que tu as vu quelque autre personne. À ces conditions, on te laissera vivre. Si tu manques à cette promesse, en quelque manière que ce soit, ton cœur et ton foie te seront arrachés pour être rôtis et mangés. Et puis je ne suis pas seul, ainsi que tu peux le croire. Il y a là un jeune homme avec moi, un jeune homme auprès duquel je suis un ange. Ce jeune homme entend ce que je te dis. Ce jeune homme a un moyen tout particulier de se procurer le cœur et le foie des petits gars de ton espèce. Il est impossible, à n'importe quel moucheron comme toi, de le fuir ou de se cacher de lui. Tu auras beau fermer la porte au verrou, te croire en sûreté dans ton lit bien chaud, te cacher la tête dans tes couvertures, et espérer que tu es à l'abri de tout danger, ce jeune homme saura s'approcher de toi et t'ouvrir le ventre. Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que j'empêche en ce moment ce jeune homme de te faire du mal. J'ai beaucoup de peine à l'empêcher de fouiller tes entrailles. Eh bien, qu'en dis-tu ?
Je lui dis que je lui procurerai la lime dont il avait besoin et toutes les provisions que je pourrais apporter, et que je viendrai le trouver à la batterie le lendemain à la première heure.
Répète après moi. Que Dieu me frappe de mort si je ne fais pas ce que vous m'ordonnez, fit l'homme.
Je dis ce qu'il voulut, il me posa à terre.
Maintenant, reprit-il, souviens-toi de ce que tu promets, souviens-toi de ce jeune homme, et rentre chez toi.
Bonsoir, monsieur, murmurai-je tremblant.
C'est égal, dit-il en jetant les yeux sur le sol humide. Je voudrais bien être grenouille ou anguille.
En même temps, il entoura son corps grelottant avec ses grands bras, en les serrant tellement qu'il avait l'air d'y tenir, et s'en alla en boitant le long du mur de l'église. Comme je le regardais s'en aller à travers les ronces et les orties qui couvraient les tertres de gazon, il sembla à ma jeune imagination qu'il éludait, en passant, les mains que les morts étendaient avec précaution hors de leur tombe, pour le saisir à la cheville et l'attirer vers eux. Lorsqu'il arriva au pied du mur qui entoure le cimetière, il escalada comme un homme dont les jambes sont roides et engourdies, puis il se retourna pour voir ce que je faisais. Je me tournai alors du côté de la maison, et fis de mes jambes le meilleur usage possible. Mais bientôt, regardant en arrière, je le vis s'avancer vers la rivière, toujours enveloppé de ses bras, et choisissant pour ses pieds malades les grandes pierres jetées çà et là dans les marais, pour servir de passerelle, lorsqu'il avait beaucoup plu ou que la marée y était montée. Les marais formaient alors une longue ligne noire horizontale. La rivière formait une autre ligne un peu moins large et moins noire. Les nuages, eux, formaient de longues lignes rouges et noires, entremêlées et menaçantes. Sur le bord de la rivière, je distinguais à peine les deux seuls objets noirs qui se détachaient dans toute la perspective qui s'étendait devant moi. L'un était le fanal destiné à guider les matelots, ressemblant assez à un casque sans houppe placé sur une perche et qui était fort laid vu de près. L'autre, un gibet, avec ses chaînes pendantes auxquelles on avait jadis pendu un pirate. L'homme qui s'avançait en boitant vers ce dernier objet semblait être le pirate revenu à la vie et allant se raccrocher et se reprendre lui-même. Cette pensée me donna un terrible moment de vertige, et, en voyant les bestiaux lever leur tête vers lui, je me demandais s'ils ne pensaient pas comme moi. Je regardai autour de moi pour voir si je n'apercevais pas l'horrible jeune homme, je n'en vis pas la moindre trace, mais la frayeur me reprit tellement que je courus à la maison sans m'arrêter.